Bon, j'en ai glissé un mot, mais Catherine, évidemment, nous parle de la prise de position en soirée de Guillaume Lemaitre-Vierge qui a voulu donner sa version. Et j'aime beaucoup ta petite ligne que tu m'as envoyée. C'est Guillaume Lemaitre-Vierge tente. Je dis bien, tente de s'expliquer.
Oui, parce qu'il faut dire que le communiqué est arrivé hier aux médias aux alentours de 22 heures. Je lisais ça en revenant du théâtre. Et Guillaume Lemaitre-Vierge se défend quand même assez bizarrement. Moi, je lisais ça hier soir, puis ça ressemble beaucoup au discours anti-vax qu'on voit trop souvent depuis le début de la pandémie sur les réseaux sociaux. Tu sais, la phrase trop entendue, je fais mes recherches. Il dit, en fait, là-dedans que son statut vaccinal, c'est une information personnelle, c'est confidentiel, que ça aurait jamais dû sortir, respecte les mesures sanitaires comme un bon garçon depuis le début de la pandémie, mais qui continue quand même de se renseigner sur les vaccins, sur leurs effets. Il a une soif du savoir. C'est aussi ce genre de phrases qu'on a trop souvent entendues. Il voulait se faire vacciner, mais en fait, le vaccin qu'il désirait n'a pas été homologué. Tu parlais de ce vaccin tantôt.
Le Québec, là, ouais. Medicago.
On suppose que c'est ça.
Ben, on présume parce que ça devait être homologué pour septembre, puis ça a été décalé pour encore quelques mois.
Mais c'est pas comme s'il n'y avait pas le choix de vaccin non plus, là, de toute façon. Et il dit que son cheminement de réflexion n'est pas étranger, en fait, à son processus décisionnel et à son besoin d'y aller à son rythme. Je rappelle qu'on est en pandémie mondiale depuis 18 mois. Moi, j'ai un profond malaise quand je lis ça, puis quand je vois toute l'histoire de Guillaume Lemaitre-Vierge. Quand tu es une personnalité publique, aimé, où tu travailles avec des collègues, des gens proches. Il faut dire que sur les plateaux de tournage, il y a une proximité. Oui, les techniciens, réalisateurs, caméramans, eux, ils peuvent se protéger. Mais quand t'es animateur, tu travailles pas avec un masque. Quand t'es proche de la personne, je pense à Chanteur masqué notamment, qui est l'émission où on le voit présentement, t'es à côté de la personnalité qui enlève son masque. Il faut que tu lui parles.
Mais tu sais, d'ailleurs, c'est un joli paradoxe. T'sais, il anime Chanteur masqué.
Oui, il y avait beaucoup de blagues là-dessus sur les réseaux sociaux en disant par chance que les chanteurs sont masqués finalement.
Oui, mais tu sais, puis je voyais hier des gens aussi qui se disaient que se passe-t-il avec Martin et Matt, parce que le film Nitro, c'était Guillaume Lemaitre-Vierge puis Lucie Laurier, tu dis, ils ont un problème. Oui. Avec le casting. Il
manque Anne Cazabonne et tout est là. Oui. Puis que tu représentes aussi, il faut dire, une grande compagnie comme Hyundai, t'as des devoirs. T'sais, à grand pouvoir vient grande responsabilité. Puis je vais vous faire entendre, en fait, un extrait qui date du mois d'avril, qui avait fait quand même jaser. Mais là, je pense qu'on comprend un peu pourquoi Guillaume Lemaitre-Vierge s'est porté à la défense d'Éric Duhaime. À tout le monde en parle.
Vous n'avez pas d'experts qui est venu vous dire ça. Les experts qu'on a su jusqu'à présent nous disent que le vaccin actuel qu'on reçoit, il nous protège, nous, pour avoir la maladie moins durement,
moins grave,
mais on peut quand même être un vecteur et le donner à quelqu'un d'autre. Ouais. Ça, c'est les informations qu'on nous donne.
Ouais.
Donc, quelqu'un qui est vacciné, il s'est protégé, lui. Celui qui n'est pas vacciné, il est plus dangereux pour sa propre personne à lui.
C'est ça.
Qu'est-ce qui fait qu'on dit à quelqu'un, il faut que tu prennes un vaccin pour protéger l'autre? Si tu as un vaccin, tu peux quand même me donner.
Excuse-moi, mais c'est n'importe quoi, ça.
Ben oui, c'est n'importe quoi.
Et en fait, non, mais c'est parce que... Tu sais, comme, des fois, je suis un peu tanné de répéter, là. Oui, le vaccin te protège, puis oui, le vaccin fait en sorte. Puis on le voit, là, avec les hospitalisations, que les cas les plus lourds sont des gens, presque dans tous les cas, non vaccinés, là. 90 % des hospitalisations, les soins intensifs, puis les décès. Ça, c'est la première affaire. J'ai reposé la question au Dr Weiss cette semaine. Est-ce que c'est vrai que la charge virale des gens non vaccinés est plus forte que les gens qui sont vaccinés? Réponse, oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Fait que quand j'entends des conneries de même, tu dis, OK, il est anti-vaccin, puis il lit n'importe quoi, puis sa grande recherche du savoir, c'est de lire toutes sortes de niaiseries. Ben écoute, ça y appartient. Hein?
Oui, puis je vais terminer avec Sophie Préjean, qui est présidente de l'Union des artistes, qui est en entrevue hier à Patrick Lagacé, puis il a posé une bonne question. Quand tu es un acteur, parce que tu ne peux pas te protéger, tu ne peux pas mettre de masque pour frencher, tu sais, en District 31, on ne peut pas vraiment... Tu sais, si un acteur n'est pas vacciné, parce que présentement, on demande le passeport vaccinal pour les acteurs pour certains plateaux, ben il se passe quoi si on décide de... Finalement, ben, parce qu'il n'est pas vacciné, on supprime le rôle?
Si le scénario le justifie, c'est clair qu'on ne pourra pas défendre les libertés de cette personne-là sous prétexte qu'elle a des droits. Parce que les nombreux artistes qui deviennent à risque, à haut risque, en ne se protégeant pas, il faut aussi les protéger, eux. Alors, ce qui peut sembler excessif d'un côté, parce que, voyons donc, qui peut m'exiger un passeport vaccinal, devient justifié dans la mesure où les conditions de travail ne sont pas les mêmes.
Puis elle a raison, mais le cas Guillaume Lemaitre-Vierge, Anne Cazabonne, il y en a d'autres aussi, qui, c'est pas la majorité, mais ils sont assez
Non, mais il y a des gens qui, connus, là, qui, puis ils veulent travailler. Puis, c'est-tu quoi? Ils rendent tout le monde mal à l'aise.
Oui.
Sur les plateaux.
Tout à fait.
T'sais,
c'est le cas du plateau de chanteurs masqués. J'ai eu la confirmation. Ça rend les gens mal à l'aise.
OK. Un petit mot sur une série de ta suggestion pour la fin de semaine. Oui. Ça s'appelle Sermon de minuit.
Ben, c'est la nouvelle de Mike Flanagan qui nous a donné la très populaire The Haunting, qui est aussi disponible sur Netflix. Pour Sermon de minuit, on n'est pas dans les entités. On mise plutôt sur les doctrines de la religion catholique. On est sur une petite île isolée avec quelques habitants seulement. Assez serré. Tu sais, tout le monde se connaît, mon frère, ma sœur et nos trois enfants. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a un nouveau curé qui arrive de nulle part, jeune, charismatique, avec une nouvelle approche plus humaine. Mais il est assez intense.
Bonjour. Je sais que je ne suis pas celui que vous vous attendiez à voir. Je ne souhaite rien d'autre que vous servir. Et j'ai hâte de faire votre connaissance à tous.
Alors, il commence à parler de mort, de l'armée de Dieu, le bien et du mal. Tu sais, ça sonne toujours pas vraiment bien quand ça commence comme ça. Il y a des événements inexpliqués qui vont arriver. Mort d'animaux, miracle, fausse couche, ça cache quelque chose. Beaucoup de dialogues, mais quand même, je vous avoue, j'ai regardé tous les épisodes en rafale. Sermon de minuit sur Netflix, c'est à voir pour cette fin de semaine. Si vous aimez le genre horreur, évidemment.
Bien sûr. Merci. 6h34. Je pense qu'on sera pas là pour l'énigme à 6h36. Mais ça, c'est un détail.
Ouais. On a jasé un petit peu.
Hein, non, on placotait. Ben oui. Qu'est-ce que tu en es comme ça? La 30.